Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Le constat est souvent, ce fut une dure traversée. Mais face aux épreuves, il est possible d'accéder à l'éblouissement qui aide à vivre. Pour en avoir les ressources, il faut avoir subi le désespoir, parfois muet, et la désillusion. Alors on prend conscience que les aurores inscrivent un au-delà de soi et suggèrent une escapade possible. Dès lors, le désir de vivre domine tous les autres, car il s'est pourvu de sentinelles patientes et graves, forces irréfragables, véritable rempart contre le renoncement. Ainsi, le cristal de la foi se révèle être la sentinelle suprême, porteuse de la nouvelle, l'homme reviendra sur la terre. Une invitation à être au plus profond de soi, pour rayonner, plus encore, tel est le message délivré poétiquement par Martin Biard dans son ouvrage « Les Sentinelles du Désir » paru chez Edilivre en 2023. Bonjour Martin Biard.
Bonjour Philippe Gilbert, bonjour à nos chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver à Parole d'auteur sur Radio Présence.
Merci de nous m'avoir accueilli aujourd'hui.
Vous êtes presque une habituée maintenant de Radio Présence.
Une Toulousaine en tout cas, qui aime sa ville.
Alors aujourd'hui, comme les fois précédentes, ou presque, nous allons parler poésie. Et avant d'entamer le sujet, je voudrais que vous nous disiez si, selon vous, la poésie est faite pour être lue ou déclamée, ou bien écoutée.
Alors, je vous dirais les deux, parce que dans la mesure où il y a quelqu'un qui lit à haute voix, en interprétant le texte, en le déclamant aussi, quelquefois, si ça s'y prête, mais pas trop solennellement non plus, parce que des fois on y perd aussi le côté un peu intimiste de la poésie, qui est quand même une affaire délicate. Il faut un auditoire, et cet auditoire, plus la qualité de son écoute est acquise, et plus je crois que l'intervenant peut donner lui aussi le meilleur de lui-même pour porter la qualité du texte.
Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que peut-être il serait plus facile pour les poètes, pour toucher davantage de personnes, de faire entendre leur poésie plutôt que finalement de les publier, parce que la démarche des lecteurs vers la poésie, on le sait, reste une démarche qui est de moins en moins fréquente.
Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que, en France en tout cas, les amateurs de poésie ont toujours constitué un petit cénacle. En revanche, il y a cette possibilité, oui, effectivement, de dire la parole poétique. Alors, il y a des poètes qui sont prêts à relever le gant, et puis d'autres pour qui c'est impossible. C'est-à-dire, c'est un peu comme certains peintres, si vous voulez, une fois qu'ils ont donné à voir leur toile, ils ont des difficultés à en parler, à dire... comment ce processus a été possible pour faire quelque chose qu'ils ne feront plus jamais. Et je pense qu'il y a certains poètes aussi qui sont, pas dans leur retranchement, mais dans un tel recueillement, que ça leur est difficile après de s'extravertir, en fait.
Alors j'ai trouvé deux définitions de la poésie, l'une de Léopold Sédar Senghor et l'autre de Jean Cocteau. Est-ce que vous pourriez nous dire avec laquelle vous êtes le plus en accord ?
Peut-être que ce sera avec les deux, parce que j'aime beaucoup ces deux écrivains.
Je me doutais un petit peu. Alors, pour nos auditeurs, pour Léopold Sédar Senghor, la poésie, c'est le langage le plus expressif qui passe par les sens pour aller jusqu'à l'âme. Et pour Jean Cocteau, le mariage du conscient et de l'inconscient.
Je pencherai pour Senghor.
Très bien. De toute façon, on va voir pourquoi vous faites cette réponse un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, je rappelle à nos auditeurs un petit peu votre parcours. Vous êtes issu de deux mondes culturels, l'occitan et le catalan, de par vos origines familiales, de par votre mariage également. Vous avez été professeur de lettres, Vous avez été certifiée en histoire moderne et en poésie contemporaine. Vous êtes écrivaine, conférencière, poète, c'est-à-dire que vous êtes absolument polyvalente.
Oui.
Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans vos ouvrages, puisque vous avez publié des romans historiques, des poèmes.
Des essais aussi.
Et des essais, donc...
Et puis aussi que j'ai travaillé sur plusieurs dizaines de conférences. Parce que je suis aussi auteure conférencière. J'ai animé aussi des ateliers et des stages de formation en communication, mais aussi ensuite dans tout ce qui touche de près ou de loin à la littérature. Encore au mois de novembre, avec des jeunes, on faisait des fleurs de poésie.
Joli.
Et donc, il y a aussi tout cet aspect aussi chez moi d'aller vers les autres, et d'accueillir l'autre dans toute sa diversité, quel que soit l'âge, et d'être dans le partage. Voilà.
Alors donc, aujourd'hui, nous parlons de l'ouvrage qui s'intitule « Les Sentinelles du désir ». Alors, cet ouvrage, c'est une réédition, puisque la première édition est parue, je crois, en 2011. Alors, vous avez cette nouvelle édition. Qu'est-ce qu'elle a vraiment de fondamentalement différente avec la première ?
Ben, ce qui a été différent, c'est qu'on n'a plus inséré la préface de Gaston Marty, qui était un poète, je parle au passé parce qu'il est décédé, qui m'avait bien connu parce qu'il avait été mon professeur d'espagnol pendant les 2 années d'Hippocagne et de Cagne que j'avais suivi au lycée Joffre à Montpellier. Mais ce n'est pas forcément là que je l'ai connu le plus. En fait, je l'ai découvert vraiment le jour où on s'est retrouvés dans un même cénacle de poésie et où on a été tout content de se retrouver, en fait. Et là, on n'était plus dans une relation de maître à disciple. On était presque, je dirais, à égalité dans ce monde sans frontières de la poésie. Et c'est même moi qui lui ai remis un prix, en fait. Et après, bon, ça a été un long cheminement parce qu'on s'est plus quitté, parce que chaque fois qu'il y avait des rencontres poétiques, il était là et moi aussi, dans le cadre donc des écrivains méditerranéens, c'est-à-dire de l'association qui à Montpellier est une des premières dès 1942-43 à produire une revue qui s'appelle la Revue Souffle et qui au départ est constitué de quelques papiers qui sont en fait une résistance culturelle et intellectuelle dans la guerre, quoi. Voilà.
Alors, une autre différence notable, ce sont les deux illustrations et la première de couverture. Donc, il s'agit d'illustrations qui sont des œuvres de Gaëtan Biard, votre mari.
Mon mari.
Alors, sur la couverture, donc, une œuvre qui est intitulée « Heure d'été ».
Oui.
Alors, peut-être vous pourriez nous expliquer quels ont été les critères de choix pour remplacer la précédente.
Oui. Alors, il avait déjà été le peintre qui avait illustré la première de couverture de la première édition, donc. Et pour la deuxième édition, je lui ai demandé si, évidemment, il était prêt à suivre le projet. Il m'a dit oui. Donc, il y avait à l'intérieur de la première édition et dans la première de couverture de la première édition des choses qui se sont retrouvées illustrées l'intérieur de la deuxième. Et pour la première de couverture de la deuxième édition, donc, il y a eu ce tableau, un extrait du tableau qui s'appelle « Heure d'été ». Et que j'ai voulu, donc, peut-être avec des couleurs plus chaudes, plus chatoyantes, que dans la première version qui était avec des couleurs plus froides, plus bleutées. Voilà.
Oui, c'est net.
On passait à autre chose là, parce que dans la deuxième édition, effectivement, la maladie était combattue, quoi, et on approchait de la victoire. Donc, c'est pas la même chose de commencer la guerre en 39 ou d'être déjà à la veille du débarquement, quoi. On n'est pas dans le même état d'esprit.
Certainement. Alors, une autre originalité de cette seconde édition, c'est que c'est une édition bilingue, franco-anglaise. Oui. Alors, pour quelle raison ?
Alors, dans la première édition, le texte donc était dédié à une petite fille qui s'appelle, sauf que maintenant elle est grande, qui s'appelle Samira, qui vit dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. C'est une jeune enfant que j'ai eu l'occasion de, on dit parrainer, mais en fait de marrainer serait plus juste, pour sa scolarisation, pour le suivi de sa santé, pour ses activités personnelles. Et elle, en particulier, elle avait une très belle voix. Mais on ne communiquait qu'en anglais, parce qu'elle, elle parlait la langue qu'on parle dans sa ville, quoi. Et moi, je parlais français plus couramment. Voilà. Mais nos échanges qui ont été épistolaires pendant une quinzaine d'années, se sont passés en anglais. Et quand elle a eu 20 ans, ça correspondait à cette réédition. Et je me suis dit, pour ses 20 ans, il faut qu'elle accède au texte de ce recueil. Donc, j'ai cherché des personnes qui soient capables de traduire ce recueil, qui n'est déjà pas forcément facile d'accès en français. Donc, pour arriver à trouver les bonnes personnes, ça n'allait pas de soi. J'ai choisi une Anglaise qui s'appelle Elizabeth Reynaud-Hilly, qui est parfaitement francophone, parce qu'aussi mariée à un Français, donc elle connaît bien maintenant la France. Et elle était anglaise du Royaume-Uni, donc, et elle avait surtout un frère à Londres qui était professeur de littérature française, donc qui avait aussi accès à des textes pas toujours faciles. Et ensuite, il y a une autre personne qui s'appelle Valérie Mathias, qui, elle, possédait ce qu'au Canada, on arrive à faire, c'est-à-dire à la fois la capacité de parler français, mais en même temps aussi d'être parfaitement anglophone, mais avec des tournures des fois plus américaines. Voilà. Et à elles deux, elles ont proposé justement une traduction qui est finalement assez intéressante. Voilà.
Donc, revenons plus précisément à ce recueil de poésie. Donc, je le rappelle, qui s'intitule « Les sentinelles du désir ». Sur quel désir ces sentinelles veillent-elles exactement ?
Alors, pour moi, en tout cas, ça ne fait pas de doute, c'est le désir de vivre. C'est-à-dire ce qui fait qu'on est rattaché vraiment à notre essence interne et qui fait que, finalement, on a peut-être quelquefois des anges gardiens qui veillent sur nous. Et si ce n'est pas des anges gardiens, c'est peut-être des personnes qui nous aident aussi. C'est peut-être des personnes qui nous guident. C'est peut-être la bonne rencontre au bon moment. C'est le bon diagnostic avec des personnes très compétentes qui peuvent vous sauver la vie. C'est tout ça, les sentinelles, en fait. Et je dirais même, au-delà des personnes qui sont en vie ou présentes, je dirais, dans l'invisible, il y a aussi tout le cortège des âmes, des gens qui nous ont précédés, qui nous ont aimés, et pour moi, sont des présences bienveillantes aussi.
Alors, ce qu'il faut peut-être préciser à nos auditeurs, c'est les conditions dans lesquelles vous avez eu cette idée d'écrire à un moment où vous aviez de graves problèmes de santé.
Oui. Bon, alors, pudiquement, c'est la lutte, je dirais, presque continue que je mène depuis plusieurs années contre le cancer. Et c'est pour ça que je dis que, heureusement, que j'ai trouvé sur mon chemin des gens pour me sauver la vie, ou pour en tout cas trouver la solution qui me permettait de rester ici-bas avec vous. Alors après, les thérapies qui sont mises en place, et il y a plus d'une dizaine d'années, c'était Bon, on avait envie de me sauver la vie, donc on a mis vraiment en place des thérapies qui étaient très agressives. Et il fallait tenir, quoi. Il fallait tenir et y croire. Et ce recueil, c'est ça, c'est un message d'espoir, en fait. Et on me dit des fois, c'est plus que ça, c'est un hymne à la vie. Et t'as mieux si c'est aussi ça, quoi. Voilà, c'est important pour moi... aussi d'être solidaire avec tous les malades qui sont affectés par des maladies, des fois qu'on leur dit incurables, mais qui quand même s'accrochent. Quoi. Voilà.
Donc effectivement, c'est une leçon de vie. Et c'est une leçon de vie qui est très précise et qui ne reste pas dans l'abstrait, puisque vous évoquez les différentes phases de tristesse, de désespérance, d'isolement. Et une manière de retrouver espoir progressivement et d'en tirer une certaine philosophie de la vie.
En tout cas, alors, retrouver la lumière. Hein.
Voilà.
Retrouver la lumière et puis soi-même redevenir lumière.
Donc, ce que je vous propose, Martine Biard, nous allons écouter un petit morceau de musique et juste après, vous nous ferez une petite lecture.
Merci.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Martine Biard pour son ouvrage Les Sentinelles du désir, paru chez Edilivre en 2021. Martine Biard, Like a Rain de Holly Jenkins. Pourquoi ce choix ?
Alors d'abord parce que Holly Jenkins, dans le cadre du spectacle que nous avons mis au point, qui s'appelle Les Sentinelles du désir, puisque c'est le titre, c'est le titre même du recueil, quoi. C'est celui qui a écrit toute la musique du spectacle et qui termine par une chanson qui s'appelle The Tide, qu'il a dédié à la clôture de ce spectacle. Donc, ça me paraissait intéressant que les auditeurs, donc, aient entendu la musique d'Holly Jenkins, puisqu'il est auteur-compositeur, qu'il l'ait entendu aussi chanter, parce que c'est quand même une voix assez originale, assez particulière, et qu'ils comprennent que justement c'est un auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste. Donc ça fait quand même une certaine palette de possibilités sur le plan de ses compétences musicales et vocales. Et ça, ça m'intéressait vraiment parce que effectivement, j'ai un recueil là qui est quand même assez dense et où il fallait travailler sur plusieurs variations, plusieurs nuances aussi. Voilà.
Alors, pour la poésie, c'est bien joli d'en parler, mais c'est encore mieux de l'écouter. Donc, vous avez choisi un petit morceau que vous pourriez nous lire, qui évoque l'isolement que l'on peut ressentir, une certaine tristesse.
Je dirais surtout la perte. C'est-à-dire que, en fait, quand on est atteint d'une maladie mortelle, on s'interroge aussi sur tous ceux qui nous ont quittés. Et donc, forcément, reviennent des souvenirs qui font que soit on est nostalgique, soit on est malheureux aussi de la perte. Et donc, bon, voilà, tout ça interpelle. Et on se dit, est-ce qu'on passe de l'autre côté, on va les rejoindre, ou est-ce qu'ils sont présents, mais en même temps, ces présences... qu'est-ce qu'on en fait? Comment on tient encore le lien, quoi? En fait, c'est toujours un peu ça, hein, c'est cette idée de garder le contact, en fait. Des greniers au son des marteaux d'une forge, d'aussi loin qu'ils me souviennent, les souvenirs ne pèsent rien. Ni l'onde, ni le nid. Pattes d'oiseau d'une colombe, on voudrait tout et pourtant on n'a plus de plaisir qu'à l'air, la poussière et le songe. Que faire de l'absent? Que dire à ceux qui souffrent? Il n'est constance en ces lieux, pas plus qu'herbe qui bouge.
Merci Martine Biard. Les souvenirs ne pèsent rien, que dire à ceux qui souffrent? Effectivement, c'est l'enjeu et sans doute la préoccupation centrale des intéressés et de leurs proches.
Et c'est une fraternité. Oui. Parce que quand vous êtes dans certains hôpitaux, comme m'avait dit un jour un médecin, et vous rencontrerez toujours pire que vous. Et donc, on n'est pas dans du bavardage, quoi. Il y a vraiment une solidarité, un peu comme j'imagine dans les camps de concentration, c'est-à-dire dans les situations où la personne est soumise à des tensions extrêmes. En fait.
Alors, donc, là, vous nous avez donné une image de... à la fois la tristesse, la perte, la distanciation forcée. Avant que l'on essaye de donner un coup de projecteur sur d'autres aspects de ce recueil, je voudrais revenir sur sa structure. Je dirais que ce recueil, ce livre, est très pédagogique et vous en avez l'habitude. C'est-à-dire qu'il y a les poèmes qui sont l'élément central de ce livre. Et vous avez donc une préface qui a pour but finalement de donner des clés au lecteur pour pouvoir effectivement rentrer plus facilement dans vos poèmes. Et comme dans d'autres livres, vous avez aussi à la fin du livre des commentaires qui viennent aussi apporter des éléments, en particulier de Thiers, qui vont compléter la compréhension. Et c'est pour ça, en ce sens, que vous avez une vocation de pédagogie de la poésie.
Alors, comme vous l'avez dit au début de l'émission, la poésie, j'insiste surtout en France, parce que c'est pas forcément vrai dans d'autres pays d'Europe ou dans d'autres parties du monde, mais ici, c'est vraiment vécu comme quelque chose souvent d'inaccessible ou d'étranger en tout cas. Et je pense qu'on a tout intérêt nous les poètes ou les amateurs de poésie, de faire en sorte que les personnes qui n'ont pas grand-chose à voir avec ces domaines finalement, qui sont des passions, hein, parce que tous les gens que j'ai connus qui étaient impliqués dans ces cercles de poésie, c'est souvent des gens vraiment engagés, quoi, et engagés à vie, ben, justement, face des passerelles, ou en tout cas, montre à d'autres personnes qui sont dans des domaines d'activité ou de préoccupations tout à fait différents, que la poésie, c'est pas une île déserte, quoi. C'est aussi quelque chose qui aide à vivre tout le monde. Enfin, voilà.
Et c'est en ce sens...
Un langage universel.
Voilà, langage universel qui mérite des explications et qui mérite d'être encouragé en essayant d'ouvrir au plus grand nombre.
Oui, et puis c'est surtout la poésie, enfin pour moi, hein. C'est ce que finalement... on arrive à exprimer quand on n'a plus rien à dire dans le discours. Et si on regarde, c'est souvent au moment des mariages ou au moment des obsèques que quelqu'un, à un moment donné, lit un extrait de poème ou carrément ben, un poème tout entier, quoi. Parce que ça donne une tonalité autre. Ça permet aussi de dire... est-ce qu'on n'oserait pas dire peut-être, ou qu'on dirait d'une façon tellement banale, si on ne faisait qu'échanger comme dans la vie ordinaire ?
C'est une manière de changer de registre, finalement.
Oui, oui.
Alors, revenons à la structure du livre. 11 poèmes, donc. 11 poèmes avec des titres très variés et souvent évocateurs, avec néanmoins des mots ambivalents. Alors, je cite très rapidement, « Une mariée en hiver, Mistral, chambre 307, madame, Cap Horn, nuit d'orage, abordage, heure d'été, Costa Rica, retrouvailles inédites, l'œuvre en soupir et cristal. » Alors, ces titres, ils vous sont venus comment et d'une manière plus précise quand vous écrivez de la poésie, partez-vous du titre ou remontez-vous au titre ?
Non, je remonte au titre.
Ouais.
Je remonte au titre parce que justement, bon, alors la poésie, c'est en général vraiment une fulgurance. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Donc, ça peut venir dans n'importe quelle circonstance et je dirais à n'importe quelle heure. Et comme je le sais, ben, je suis aussi une sentinelle de moi-même. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, même si c'est au dos d'une facture ou dans le tram ou en plein milieu de la nuit, je sais qu'il faut que je note. Et après, je dirais, c'est comme une pelote de laine, c'est-à-dire les choses défilent. Et une fois qu'on est arrivé au bout de tout ce qui est essentiel à garder, parce qu'on peut jeter et biffer et enlever beaucoup de choses aussi en chemin. Là, je tiens le noyau et le titre, il arrive. Voilà.
Et ce phénomène de, un petit peu d'itération, de maturation, est-ce qu'il prend du temps ?
Pour l'écriture, pas forcément, à condition d'être au clair avec soi-même et je dirais d'être au rendez-vous de la météore qui passe. Par contre, la maturation, oui, ça peut prendre des semaines, des mois, des années, des fois. Quand j'en suis à dire que faire de l'absent, que dire à ceux qui souffrent, ça résonne en moi par rapport à des événements, des chocs émotionnels, des disparitions qui ont eu lieu des fois il y a un quart de siècle en arrière.
Martine Biard, je souhaiterais que vous nous fassiez le plaisir d'une seconde lecture. Et je crois que vous avez choisi le dernier poème du recueil, dont vous pouvez nous donner le titre.
Alors c'est Cristal, justement. Alors, Cristal, évidemment, savoir avec la transparence, avec quelque chose qui devient de plus en plus limpide, avec un message précieux aussi, parce que c'est quand même du cristal, c'est pas du verre ordinaire. Et je crois que là, on atteint justement quelque chose qui est à l'épreuve du temps, quoi, qui est fondamental et qui a à voir avec le sacré. Je suis sentinelle d'avoir attendu l'Éternel. En son nom, je mure le couloir du temps. Rien n'arrête sa course, ni le vent, ni l'âme, au firmament des jours qui n'ont plus de lumière et se hérissent de l'ombre qui leur nuit. Ô tambour, la gloire qui vous tient lieu de présence accorde l'infini et la grâce dans les pots tendus du désir qui se soulève à l'unisson d'un rêve de repos. D'actes sacrificiels, dont le seul juge connaît le temps, la certitude d'abolir ce qui fut corrompu, l'engin des routes, témoins médusés et alertes. Car en soi, le péril est une chaîne mouvante qui entrave les mots et les rêves. Et sur le seuil calme des jours, tous, nous n'avons plus que besoin d'amour, sans plus de saison pour en savourer les grâces et le pardon. Alors, peut-être et seulement tu te lèves. Tous les sourires du monde relèvent la garde des sentinelles et le lys qui éclaire la lumière des anges et la marée. Et là, on enchaîne dans le spectacle sur la chanson donc d'Holly Jenkins qui s'appelle « The Tide ». Voilà.
Donc, je suis sentinelle d'avoir attendu l'Éternel. Tous les sourires du monde relèvent la garde des sentinelles. Alors, ça, c'est le message
final.
c'est la croyance, c'est la direction, c'est le sens. Et auparavant, il y a une nouvelle. Il y a cette révélation de la nouvelle avec une formulation qui est « L'homme va revenir sur la terre ». Est-ce que vous pourriez nous expliciter ?
Parce que je crois que le final de ce recueil, de toute façon, c'est même une de mes interventions quand on mettait au point le spectacle sur un plan musical. Où je finis par dire à mon musicien là c'est l'apocalypse, c'est-à-dire que on est dans le Nouveau Testament mais dans la dernière partie, quoi. C'est-à-dire que oui, l'annonce de l'homme avec un grand H bien sûr, c'est-à-dire du Christ qui reviendra sur la terre pour juger les vivants et les morts, mais enfin bon, je vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas non plus enfermer mon message dans une religion, parce que je pense que ce message, il est universel et qu'il peut être accueilli partout dans le monde et dans mon entourage aussi, par tout un tas de personnes qui croient ou qui ne croient pas ou qui appartiennent à d'autres religions, mais qui fondamentalement sont des êtres humains et qui aspirent aussi à quelque chose probablement d'un au-delà.
Voilà, donc, et c'est ce que vous soutenez à travers ce recueil, c'est ce message d'universalité finalement.
Oui, et de fraternité, j'y reviens, hein, parce que c'est, je vous dis, il y a cette fraternité aussi des grands malades ou des personnes qui sont vraiment dans la désespérance. Quel que soit le milieu et quel que soit, je dirais, le niveau économique et social.
Merci beaucoup Martine Biard. Je vous poserai une petite question plus pratique juste après cette nouvelle pause au cours de laquelle nous allons écouter Holly Jenkins dans « Night ».
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Martine Biard pour son ouvrage Les sourires de l'intime,
les paru. Sentinelles du désir.
Ah oui, oui, Les sentinelles du désir.
Cette fois.
Oui, effectivement, vous avez raison de me reprendre. Paru aux éditions Edilivre. Nous venons d'entendre Night d'Ollie Jenkins. Alors, Ollie Jenkins, vous nous avez dit en début d'interview que c'était un musicien que vous aviez choisi pour monter une performance à partir de ce recueil. Quels ont été vos critères de choix?
Alors, il faut dire que quelqu'un comme Ollie Jenkins, je l'ai cherché pendant 10 ans. Donc, vraiment, je cherchais quelqu'un qui corresponde effectivement à tout un tas de critères. Et il s'avère que quand je l'ai rencontré, après avoir rencontré tout un tas de musiciens, lui, ça cochait tous les critères, quoi. Voilà. D'une part, il est gallois, ça veut dire qu'il est parfaitement anglophone. Donc là, c'était sur un recueil qui est franco-anglais, et avec probablement un jour une version aussi du spectacle qui sera en anglais. Ensuite, ce qui m'a intéressée chez lui, c'est la voix, d'emblée. Une voix qui est quand même très particulière, très originale, qui a quelque chose aussi d'assez céleste dans son message. Et puis le fait qu'il soit multi-instrumentiste aussi. Et j'avais travaillé pendant longtemps avec une personne qui avait beaucoup de qualités, qui s'appelle Christiane Barthès et qui était également multi-instrumentiste. Ils ont en commun d'être des batteurs tous les deux au départ. Ça, c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont le sens du rythme. Et puis, Christiane était accordéoniste, elle était également pianiste. Et Oliver, il est aussi... il travaille avec un clavier électro, mais de toute façon, ça va aussi avec le piano. Et il est guitariste. Voilà. Donc... Ça m'intéresse aussi de travailler avec des gens qui sont polyvalents, qui ont plusieurs cordes à leur arc. Voilà.
Et donc je recommande aux auditeurs, s'ils en ont l'occasion, d'écouter cette performance qui s'est produite plusieurs fois, je pense à Montpellier, à Avignon.
Alors, Avignon, la maison de la poésie du Figuier Pourpre, oui, qui nous a accueillis au mois de novembre dernier, par exemple, pour les Sentinelles du Désir, qui nous accueillera à nouveau dans le cadre du festival d'Avignon, donc, si mes souvenirs sont bons, le 4 juillet prochain, en matinale. Ensuite, nous allons nous produire effectivement à Montpellier, mais ça n'a pas encore eu lieu. Ce sera le 24 au Gazette Café à 15h. Et ensuite, nous sommes attendus au Festival des Mots du Vent aussi, à Fanjoncouze, dans les Corbières, pour la 3e édition. Et puis, il y a d'autres dates aussi qui doivent se préciser.
Voilà. Et donc, je peux rajouter qu'il y a une date, hélas passée pour les auditeurs, qui était donc le 25 janvier ici à Toulouse, et avec une autre date en perspective.
Alors, en tout cas, hier soir, c'était la Maison de l'Occitanie, où là, on était au cœur de Toulouse, quoi, dans des décors du 15e siècle, et où je pense qu'il y avait un public très averti et qui a eu une qualité d'écoute très appréciable pour nous.
Martine Biard, revenons au texte et une petite question très ponctuelle. Le titre du troisième poème, c'est « Chambre 307, Madame ». La question que je me pose, c'est d'où vient le 307?
Parce que c'est réel, le 307. C'est-à-dire que il y a des fois, c'est 307, ça pourrait être 226 aussi, ou 103, quoi. Mais il y a des fois, il y a dans certaines chambres d'hôpitaux, il y a des choses qui se passent et qui sont déterminantes, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas si on va en ressortir sauvé et avec encore quelques mois ou quelques années à vivre. Et d'autres fois, selon ce qu'on a trouvé, ça peut être le dernier passage avant les soins palliatifs. Donc oui, il y a des numéros comme ça qui marquent. Ce n'est pas une chambre d'hôtel.
dans ce poème, il y a une caractéristique, il y a des phrases très courtes qui se suivent. C'est le style pour marquer et imprégner le lecteur d'une certaine atmosphère. Et on s'aperçoit que à côté du texte français, il y a le texte anglais, et que le texte anglais n'arrive pas à être structuré de la même façon que le texte français. C'est-à-dire, on retrouve dans la traduction en anglais des lignes qui sont très très longues par rapport à ce qui est déroulé du côté français. Est-ce que ça a été, je suppose que ça a été un problème pour la traductrice?
Les traductrices, parce qu'en plus, elles se sont consultées. Oui, parce que l'anglais va dire, est beaucoup plus pragmatique de toute façon que nous, d'emblée. Ensuite, il y a moins de nuances. Nous, on a une langue qui est très riche au niveau de tout ce qui est délicatesse, variante. Oui, voilà, nuances. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme un aquarelle, quoi. C'est-à-dire que on peut peindre presque des transparences. Et dans la langue française, quand on la connaît bien, quand on connaît toutes ses ressources, c'est un peu comme en musique. C'est-à-dire on arrive à être au plus près, finalement, de tous les murmures et de tous les frissons et de tous les tremblements. Bon, donc oui, effectivement, il y a moins de ressources, malgré tout, dans la langue anglaise. Mais en même temps, c'est la langue de Shakespeare. Donc, quand ils veulent, ils savent aussi quand même aller au cœur des choses et être de grands poètes.
Voilà. Et c'est un des intérêts, et non des moindres, en lisant ce recueil, effectivement, pour les auditeurs qui comprennent l'anglais, de mesurer cette différence dans la construction des phrases, dans la faculté à imprégner des petites touches pour la description de l'ambiance et de l'environnement. Alors, au-delà de la forme poétique, qui est vraiment un jaillissement de mots, d'expressions qui transportent et qui est très... qui est très visuel, hein, finalement.
Oui.
Hein. Il y a quelques références littéraires, notamment dans Abordage, référence à Esquil, et dans la tragédie, enfin, aux tragédiens, à Sophocle et Ripide.
Oui.
Ça, c'est une première chose, et vous l'avez mis dans Abordage, de quelle manière ça vous est venu de pourquoi donner finalement cette référence,
cette piste?
Ouais, cette piste.
Bon, d'abord, j'aime beaucoup Eschyle. Ouais. Ça fait partie des grands auteurs de l'Antiquité. Enfin, et pour moi, c'est vrai que quand je dis cet éclair où plonge souvent le mien, cet éclair du regard où plonge souvent le mien, c'est parce que je pense que Eschyle, il avait un regard aiguisé sur le monde et que pour la tragédie, il n'y a pas mieux que de lire Eschyle, quoi. Voilà, encore aujourd'hui, c'est un monument. Il a une façon de saisir le réel qui est superbe. Bon, alors ça, effectivement, ça fait partie de mes sentinelles, ça aussi, les grands auteurs qui m'ont marqué, qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné, dans lesquels on aime se replonger aussi dans les moments graves. Ouais. Voilà.
Et c'est une manière
parce
de...
que lecture-écriture, ça va avec. Voilà.
C'est une manière de replacer la tragédie au centre de la vie, finalement, quelque part. Alors, une autre référence, c'est une référence à Faulkner.
Oui, Absalom.
Absalom. Oui. Alors, là, expliquez-nous un petit peu.
Ben, Absalom, c'est le titre d'un livre de Faulkner que j'invite tous les auditeurs à redécouvrir dans leur bibliothèque ou à s'acheter, ou à se procurer dans une médiathèque. Il y a encore un autre compagnonnage aussi dans le suivi de ce recueil, c'est celui d'Hemingway. Hemingway, tant qu'il reste avec moi, il ne se suicide pas, quoi. Donc, donc même quand il y a toutes les raisons, peut-être d'aller jusqu'au bout et même de se faire soi-même le point final, voilà, il y a encore... Et ça aussi, c'est pour ça que je parlais de fraternité, même dans les moments difficiles et entre les grands malades ou entre les personnes qui sont particulièrement persécutées. Il y a toujours quelqu'un pour épauler l'autre, quoi, pour lui donner envie aussi de rester, quoi.
Alors Martine Biard, est-ce que après avoir écrit ce recueil de poèmes, vous avez l'impression d'avoir tout dit ou au moins d'avoir tout exprimé ce que vous vouliez transmettre sur ce sujet?
Alors peut-être que sur ce sujet, oui, j'ai quand même fait un peu le tour de la question. Quant à dire que j'ai tout dit, non, je continue d'écrire, donc ça veut dire que encore, je pense que j'ai pas tout dit. Et je dirais même dans ma propre vie, quoi. J'ai toujours l'impression que je suis toujours pas allée jusqu'au bout de moi-même.
Ce qui nous laisse la belle espérance de pouvoir éventuellement découvrir d'autres poèmes en prolongement sur ce sujet.
Alors il y a un recueil qui a été clôturé, je dirais, l'été dernier, qui s'appelle Alcinous, le chaos de son retour. C'était inspiré cette fois-ci de l'Odyssée d'Homère avec le royaume des Phéaciens, qui est un royaume où se trouve justement Alcinous, qui est le roi et qui est aussi le père de Nausicaa, qui va accueillir Ulysse à la suite d'un naufrage qui fait périr tout son équipage. Son équipage, c'est pas rien, parce que c'est quand même les compagnons qui l'avaient gardé et qui étaient les survivants de la guerre de Troie. Hein, voilà. Donc il perd tout le monde et il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul sans son bateau. Bon, et aussi tout seul, mais mis à nu. Enfin, donc, c'est un peu le sort de l'immigré, de l'exilé, de celui qui ne sait pas si l'endroit où il arrive, c'est une terre amie ou ennemie. Et bon, le passage va se faire évidemment avec Nausicaa, qui se trouve là au bon moment, je dirais, un peu comme dans les circonstances d'une rencontre, où bon, le hasard, quelquefois, fait que... on est en situation tout à fait surprenante. Et puis Alcinous, lui, qui va prendre ses responsabilités et donc accueillir Ulysse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est au cœur de l'Odyssée, parce qu'au banquet qui va être donné en l'honneur d'Ulysse et où on va l'inviter à raconter son histoire, il y a Homère. Et Homère lui-même justifie à ce moment-là le fait que, ayant entendu Ulysse s'exprimer, il a pris la plume et il a écrit l'Odyssée. Donc, bon, voilà, ça part comme ça, quoi, ce recueil. D'accord. Et de nouveau, on repart en mer, quoi. Parce que
on repart en voyage.
Voilà, c'est ça qui est une constante, par contre, dans ma poésie, c'est qu'il y a toujours la présence de l'eau. Voilà. C'est peut-être parce que je suis née pas très loin de la Garonne aussi.
Martine Biard, merci infiniment d'être venue nous voir et nous parler en détail des Sentinelles du Désir.
Merci de m'avoir écoutée.
Paru aux éditions Edilivre. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur notre site et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Et je rappelle enfin aussi que toutes les semaines, Parole d'auteur est diffusée le mercredi à 10h, suivie d'une première rediffusion le vendredi à 19h et d'une seconde le samedi à 17h. Merci à nos auditeurs, merci à Francky à la technique.